Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et aujourd'hui, nous vous présentons le 19e numéro de LUM, le magazine Science et Société produit par la direction de la com de l'Université. Un numéro consacré cette fois à la question de l'énergie dans un contexte qui ne vous aura pas échappé, la crise énergétique. Une crise qui jette une lumière parfois crue, sur notre dépendance au pétrole, à l'électricité, au gaz pour nous chauffer, nous déplacer, nous nourrir, bref, pour vivre. Alors mobiliser cette énergie, c'est d'abord savoir la produire, la stocker et surtout en gérer la consommation. C'est en priorité répondre à la nécessité de réduire notre consommation de pétrole par la géothermie, par exemple, ou l'énergie solaire. C'est aussi savoir quoi faire des déchets nucléaires, réduire l'impact des éoliennes sur la biodiversité, optimiser les procédés de combustion du bois ou encore développer des batteries innovantes pour stocker l'énergie. Tous ces enjeux impliquent une grande diversité de champs de recherche, la géologie, la chimie, le nucléaire, la biologie, la science politique, comme nous l'a montré la crise des Gilets jaunes, provoquée, je vous le rappelle, par la taxe carbone. Tous ces sujets, nous les abordons dans ce numéro. L'énergie, c'est aussi bien sûr une question économique et c'est à cette discipline que nous avons choisi de tendre le micro aujourd'hui. Depuis 2021, les tarifs de l'énergie sont en hausse continue. Les médias, les politiques ont largement relié cette hausse des coûts à la guerre en Ukraine, mais ceci explique-t-il vraiment cela? Et d'ailleurs, qui parmi nous sait réellement comment sont fixés ces prix? Par qui? Sur quels critères? Nous avons assisté à l'ouverture à la concurrence de biens essentiels, mais en a-t-on bien cerné les enjeux, les conséquences? Toutes ces questions, nous les posons aujourd'hui à notre invité. Il est chercheur au laboratoire Montpellier Recherche en économie. Il est aussi professeur à la faculté d'éco de Montpellier. François Mirabel, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Notre invitée des trois dernières minutes sera Liane Cove, responsable de programme chez Agropolis Fondation. Elle nous présente trois conférences sur le changement climatique en Afrique avec trois auteurs du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est ouvert au public et c'est le 13 juin au Corum. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors pour commencer, François Mirabel, qui fixe le prix de l'électricité en France historiquement et selon quels critères?
Alors, on a historiquement un tarif réglementé de vente de l'électricité. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1946 et la création d'un monopole d'État, EDF, eh bien on a un tarif qui est réglementé, un tarif de vente, qui est fixé par l'État, je fais simple, avec des tarifs réglementés, alors vert et jaune pour les industriels, bleu pour les professionnels et les résidentiels. Mais avec l'ouverture à la concurrence, ces tarifs réglementés de vente ont disparu, sauf pour les résidentiels, les particuliers en fait, et puis aussi les tout petits professionnels qui bénéficient encore d'un tarif réglementé de vente et qui coexistent de fait avec un tarif de marché.
Alors justement, historiquement, est-ce que vous pouvez nous dire au départ pourquoi il a été mis en place ce tarif réglementé?
Alors, c'est une très bonne question, puisque lorsqu'on regarde le paysage électrique avant la Seconde Guerre mondiale, on a un très grand nombre de petites entreprises privées. C'est-à-dire qu'en fait, le secteur électrique est organisé avec des entreprises qui produisent, d'autres qui distribuent l'électricité, donc on est en concurrence. Mais un système qui est très complexe et qui fonctionne mal. Et il se trouve qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est passé... avec une idée totalement opposée de dire il faut des monopoles, donc des monopoles qu'on appelait des monopoles publics, puisque EDF a été créé en 1946, comme beaucoup d'industries de réseau d'ailleurs, puisqu'on a eu ensuite la SNCF, on a eu Gaz de France, et donc ces gros opérateurs étaient en charge de la fourniture d'un bien essentiel, alors en l'occurrence ici l'électricité, et EDF s'est retrouvé dans un monopole qui se voyait quelque part imposer des tarifs par l'État, et ces tarifs réglementés de vente reflétaient les coûts de fourniture de l'électricité d'EDF et de coûts de production d'EDF.
Et est-ce qu'il est toujours en vigueur aujourd'hui, ce tarif réglementé?
Alors là aussi, la question est intéressante, puisqu'on a vu disparaître progressivement les tarifs réglementés de vente pour les industriels. Et aujourd'hui, ne subsistent que des tarifs réglementés de vente pour les particuliers et, comme on l'a dit tout à l'heure, des professionnels qui ont des niveaux de consommation très bas.
Alors, vous avez parlé de l'ouverture à la concurrence, donc ça date de 2007. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix, en fait ?
Alors, comme je l'ai dit, c'est un choix radicalement différent du choix qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait choisi de mettre en place des monopoles parce que c'était plus efficace.
Et d'ailleurs, c'était une spécificité française, les monopoles, ou c'était...
Absolument pas. On a eu, dans beaucoup de pays d'Europe, même aux États-Unis, on avait des utilities, donc des grands monopoles de dessertes de zones qui avaient un monopole pour transporter, distribuer et fournir de l'électricité sur des zones géographiques. Donc cette idée de monopole, c'était de gagner en efficacité. En efficacité, parce qu'on coordonne beaucoup mieux un réseau de transport quand on a un seul producteur. On a des économies d'envergure et d'échelle, parce que plus on produit à grande échelle, plus on est efficace pour le faire. On voit très bien qu'ici, le monopole sur un réseau de transport électrique, il est évident. On ne va pas construire deux lignes de tension l'une à côté de l'autre. Donc, on a vraiment l'idée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'au-delà de la reconstruction d'après-guerre, au-delà de l'aménagement du territoire, il y a des questions d'efficacité du système électrique qui justifie la mise en place de monopoles. Alors du coup, vous me dites, mais pourquoi on ouvre la concurrence dans les années 2000, si ça marchait si bien ? Il se trouve que, alors, je ne vais pas revenir sur la dimension idéologique, elle y est certainement, mais je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Il y a d'abord l'idée que la concurrence, elle permet plus d'efficacité. C'est presque dogmatique, mais il y a vraiment des modèles économiques, notamment dans les années 80, qui montrent qu'on peut ouvrir à la concurrence, y compris sur des secteurs très capitalistiques. C'est-à-dire sur des secteurs dans lesquels il y a peu d'entreprises, ce qui correspond à des industries de réseau, comme l'électricité. Donc on peut le faire et ça peut permettre, sous certaines conditions, de faire baisser les prix et d'augmenter, on va dire, les incitations à l'innovation. C'est vraiment les grands principes. Donc ça, c'est un argument qui a été très fort, notamment avec la théorie des marchés contestables de Baumol, Panzer et Ulick dans les années 80. Et puis à côté de ça, il y a aussi un mouvement européen avec le traité de Rome de 1957 qui dit clairement dans son article 90, paragraphe 2. Alors, il faut savoir que cet article a été recodifié dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Mais globalement, cet article 90, paragraphe 2 exactement du traité de Rome, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les entreprises qui sont investies de missions d'intérêt économique général. Alors, ces entreprises, c'est toutes les industries de réseau dont je viens de parler. L'électricité, le gaz, la poste, les télécommunications, le transport ferroviaire. Les entreprises investies de missions d'intérêt économique général sont soumises aux règles de la concurrence.
Donc ça fait 50 ans. En fait, il a fallu 50 ans pour l'ouvrir, ce marché, à la concurrence, alors. C'était pas si évident que ça, alors.
C'était pas évident. C'est surtout qu'il y avait quand même des débats économiques qui montraient que, finalement, je l'ai expliqué, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a fait le choix, au contraire, de monopole public, verticalement intégré. Alors pourquoi ? Parce qu'on en a parlé, il y a plus d'efficacité. Et puis aussi, il y a des missions de service public qui sont très fortes, mais on y reviendra peut-être.
Et alors, vous en avez parlé brièvement, vous avez parlé des conséquences de cette ouverture à la concurrence, sur les prix. Vous disiez que ça aurait pu entraîner une baisse des prix. Est-ce que ça a été le cas ?
Alors, au début, oui. Dans les années 2000, quand on a ouvert, notamment en Allemagne, on s'est retrouvé avec des segments de clientèle, notamment certains industriels, qui ont bénéficié en 2000, 2001, 2002, de baisses de prix qui pouvaient aller jusqu'à 20-30% dans des contrats. Mais ces contrats étaient des contrats à court terme. C'est-à-dire des contrats qui étaient passés d'achat d'électricité, qui étaient passés pour 1 an ou 2 ans. Et ensuite, on a eu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les prix qui explosent. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faut bien différencier les prix sur les marchés de gros, ce qu'on appelle les prix dont on entend parler dans les médias actuellement, des prix qui sont payés par le consommateur, notamment les particuliers. Si je prends les prix sur les marchés de gros de l'électricité, il faut quand même savoir que sur l'année 2022, si on prend le mois d'août, juste pour avoir un ordre d'idée, si on prend le mois d'août 2022, on est monté au-delà de 800 euros le mégawatt-heure. Le 31 décembre 2022 de la même année, c'est-à-dire 5-6 mois plus tard, on était entre 4 et 7 euros le mégawatt-heure. Donc vous voyez bien qu'on est sur un système de marché qui assume son rôle de marché, c'est-à-dire à très court terme, eh bien les prix fluctuent très très fortement en fonction de l'offre et de la demande.
Et alors, donc, qu'est-ce qui explique là que ça explose dernièrement ? L'État a demandé à toutes les institutions, y compris l'université, de réduire leur facture de 10%, enfin leur consommation de 10%. Malgré ça, la hausse, elle se chiffre. Donc, je reprends juste les chiffres de l'université pour donner une image. Une augmentation de 2 millions en 2022 par rapport à 2021. Et 2023, on imagine une augmentation de plus de 7 millions. C'est énorme sur ces budgets. Donc, comment on explique cette augmentation-là ?
Alors justement, pour revenir sur ce que je disais, tout vient des prix sur les marchés de gros de l'électricité, ces bourses de l'électricité dont je parlais. ces fameux prix qui peuvent varier en l'espace de 6 mois de 800 euros le mégawattheure à 4-7 euros le mégawattheure, ce qui est complètement absurde. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans un système dans lequel plusieurs phénomènes se sont conjugués. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait flamber le prix du gaz. Il y a eu des centrales nucléaires pour lesquelles la disponibilité était très faible parce qu'il y avait de la maintenance, il y avait des problèmes de corrosion sur certaines centrales.
La sécheresse aussi.
Le déficit hydrique dans les barrages, donc qui a fait baisser la production d'électricité. Donc vous vous êtes retrouvé dans un système dans lequel tout d'un coup on a eu une forte baisse de l'offre avec des difficultés d'approvisionnement et où il fallait solliciter beaucoup plus souvent des centrales thermiques, notamment au gaz, avec une explosion du prix du gaz liée au conflit en Ukraine. Donc, par définition, je ne vais pas rentrer dans le détail de la formation du prix sur les marchés spot de l'électricité ou ces brosses de l'électricité, mais globalement, plus on sollicite des centrales de production électrique au gaz, plus effectivement c'est coûteux parce que la flambée des prix du gaz est venue expliquer l'augmentation sur certains créneaux horaires du prix de cette électricité qui a pu atteindre des sommets sur certains créneaux horaires. Puisqu'il faut savoir que le prix de l'électricité, il est fixé la veille pour le lendemain, pour chaque heure de la journée. C'est-à-dire que vous avez un prix à entre 11h et midi, tel jour, et on a des fluctuations très très fortes, y compris au sein de la journée, entre ces créneaux horaires.
Et du coup, ces bourses de l'électricité dont vous parlez, si on peut expliquer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire que pour le reste de leur approvisionnement, les fournisseurs, ils achètent de l'électricité sur les bourses de l'électricité. Elle provient d'où, cette électricité, quand elle n'est pas achetée à EDF? C'est pas uniquement EDF?
Alors, elle peut être achetée à EDF, mais pas par un système réglementé. Elle est achetée à EDF sur les marchés. Ou elle peut être achetée à d'autres producteurs qui disposent de centrales à gaz. Elle peut être achetée aussi à l'Allemagne, à des producteurs qui produisent à partir des centrales même au charbon. C'est ce qui s'est passé pendant l'hiver où on avait un manque de capacité de production et où on a beaucoup importé d'électricité d'Allemagne. Donc en fait, on a des marchés qui sont couplés, ce qu'on appelle. Et donc en fait, on peut avoir de l'électricité qui provient, si les réseaux de transport le permettent, qui permettent d'avoir de l'électricité qui vient de producteurs allemands, notamment de centrales thermiques à combustible fossile, que ce soit le gaz ou le charbon, même le fioul.
Sur ce marché, justement, il y a peut-être une spécificité française, il est dur ce mot, c'est l'AREN. On a entendu aux infos parler, le PDG d'EDF disait que c'était pas possible de continuer à vendre son électricité aux concurrents à ce prix-là, mais on est passé un peu à côté du débat, je pense, pour certains, en tout cas moi. C'est quoi ça, l'AREN?
Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que le mécanisme est assez compliqué. Alors, en fait, il se trouve qu'aujourd'hui coexistent sur le marché de l'électricité, j'en ai parlé tout à l'heure, les tarifs réglementés de vente et les tarifs de marché, notamment pour les particuliers. Si on prend un particulier aujourd'hui, il a la possibilité entre un tarif réglementé de vente dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le tarif réglementé de vente bleu, et le tarif de marché. Il se trouve que depuis qu'on a ouvert la concurrence, il est très compliqué pour les concurrents de venir concurrencer EDF. Pourquoi ? Parce que leur tarif de marché est plus élevé que le tarif réglementé de vente. Gros problème. Vous avez des concurrents, mais qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs. La réponse, elle a été à deux niveaux. Premier niveau, on a dit, quelque part, pour permettre de la concurrence, on va demander à EDF de vendre une partie de son électricité nucléaire à hauteur d'un tarif qui est censé représenter le coût complet d'EDF de 42 euros le mégawattheure. Donc ça veut dire que pour 100 TWh, c'est pas rien quand même, puisque ça représentait à l'époque un quart de la production nucléaire d'EDF. Donc pour un quart de la production d'électricité nucléaire, cette électricité est vendue à 42 euros le mégawattheure aux concurrents qui en ont besoin. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça a permis évidemment de faire baisser les tarifs de marché puisque les concurrents du coup se retrouvent à pouvoir s'approvisionner avec une électricité plutôt bon marché par rapport aux tarifs de marché. Et comme ça ne suffisait pas, on s'est dit mais finalement, on a fait baisser les tarifs de marché avec cet accès régulé à l'électricité nucléaire historique imposé à EDF. Eh bien, on va changer le mode de calcul du tarif réglementé de vente pour, quelque part, justifier l'augmentation du tarif réglementé de vente. Vous voyez qu'on marche sur la tête. Ouais. Alors, quelle a été l'idée? L'idée a été de dire on va mettre en place une méthode par empilement où on va avoir un tarif réglementé de vente qui va être calculé non pas par rapport au coût d'EDF, mais par rapport au coût des concurrents. C'est-à-dire qu'on va rajouter, quelque part, le coût d'approvisionnement électrique des concurrents pour dire, finalement, pour justifier ce qu'on appelle la contestabilité des tarifs quelque part de vente d'EDF, eh bien on va intégrer dans ce tarif de vente le coût d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs. Ce qui veut dire que quelque part, pour rendre compétitif les concurrents. On a dit, on va changer la méthode de calcul, méthode par empilement du tarif réglementé de vente, pour pouvoir l'augmenter et quelque part rendre plus compétitif les concurrents, ce qui est d'une absurdité et d'une aberration économique incroyable.
Alors, vous nous avez expliqué aussi tout à l'heure, en parlant d'absurdité, qu'on pouvait avoir des prix négatifs sur ces bourses de l'électricité. Comment est-ce qu'on peut obtenir un prix négatif ?
Alors, là aussi, moi, je me souviens, quand j'étais jeune économiste sur les bancs de l'université, j'avais un professeur qui m'expliquait que les prix négatifs ne pouvaient jamais exister sur un marché. Preuve est qu'il n'avait pas raison, puisqu'aujourd'hui, on a des prix négatifs. Alors, en fait, c'est un système, vous allez voir, je vais prendre un exemple pour vous l'expliquer plus simplement. Imaginons, on est en pleine nuit, vous avez une demande très très faible. Tout le monde dort, les industries sont en repos, et vous avez les éoliennes qui tournent parce qu'il y a du vent. Il se trouve, et je ne vais pas l'expliquer ce matin, mais qu'on a un système pour promouvoir les énergies renouvelables et donc notamment pour faciliter le développement de l'éolien, eh bien on a garanti aux producteurs d'éoliennes un prix garanti, qui est devenu un complément de rémunération aujourd'hui, qui est à 82 euros le mégawattheure. Je fais simple. Imaginons la nuit ce producteur d'éoliennes. Il y a du vent, ces éoliennes, elles tournent. Bah, ils se disent, c'est dommage de les arrêter, je n'ai pas de demande. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à faire ? Puisque moi, on me garantit pour chaque mégawattheure produit qu'on va me donner 82 euros. Donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? Ben, j'ai même intérêt à le vendre à moins 82 euros le mégawattheure, c'est-à-dire en fait à payer pour injecter sur le réseau et je paye 82 euros puisque moi, on va me les rembourser. Et de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a une demande qui peut s'exprimer à prix négatif, c'est-à-dire qu'il y a certains types de clients qui sont prêts, évidemment, à récupérer cette électricité et à ce qu'on les rémunère à 82 euros le mégawattheure pour pouvoir bénéficier de cette électricité. Alors ça, c'est, par exemple, j'ai donné un exemple, il y a des barrages, notamment en Suisse, qui sont des barrages STEP. Alors c'est des barrages dans lesquels on a des turbines qui permettent de remonter de l'eau dans les barrages. Quelque part, c'est un moyen de stocker l'électricité, puisque si on remet de l'eau dans les barrages, qu'on la remonte, ben, ça permet ensuite, quand on a besoin d'électricité, de pouvoir la produire. Eh bien, on voit très bien qu'eux, ils peuvent avoir intérêt à récupérer cette électricité, à être rémunéré à 82 euros pour faire tourner les turbines et faire remonter l'eau dans les barrages. Donc vous voyez qu'on est sur un système dans lequel, en Allemagne, quand il y a beaucoup d'énergie renouvelable, mais en France aussi, on a des créneaux horaires sur lesquels on a même eu des prix de l'électricité négatifs. Donc vous voyez qu'en économie, tout, absolument tout est possible.
Et quand les prix, donc, à l'inverse, explosent, comment les fournisseurs donc, qui acquièrent de l'électricité sur ces marchés, ils font pour honorer leurs contrats ? Est-ce qu'à un moment donné, le prix ne devient pas trop élevé, en fait ?
Alors, évidemment, votre question est très pertinente. Ces fournisseurs-là, eux qui fournissent aux consommateurs, ben, ils ont besoin d'acquérir de l'électricité. Donc, si les prix flambent sur les marchés de gros, les bourses d'électricité dont je parlais tout à l'heure, on voit qu'ils vont avoir du mal à honorer leurs contrats. Alors, deux choses. Soit ils avaient des contrats à très court terme. Donc, quelque part, ben, au bout d'un an, les prix explosent pour les consommateurs. Donc, imaginez un particulier, sa facture d'électricité va augmenter de 20, 30, 40 %. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va repartir au tarif réglementé de vente, puisque je vous rappelle qu'il y avait un bouclier tarifaire qui permettait d'avoir une augmentation maximale en 2022 de 4 %. Donc, ça, c'est la première situation. Ou alors, ce qui s'est passé en 2022, vous avez même des fournisseurs d'électricité. Alors, je ne vais pas les citer, Mitt Energy, Iberdrola, hein, voilà, je ne vais pas en donner trop, mais qui ont carrément dit aux consommateurs, bah, écoutez, on va résilier les contrats, on arrête là, allez voir du côté du tarif réglementé de vente, allez voir ailleurs. Et on a vu Leclerc aussi, hein, qui vendait de l'énergie sur les marchés, puis qui s'est retiré tranquillement des marchés. Donc vous voyez que là encore, tout est possible, tout est absolument possible dans ce monde et ces marchés de l'électricité.
Mais justement, alors, c'est-à-dire pour les particuliers ou pour les professionnels, comment on peut faire pour faire coexister aujourd'hui ce tarif réglementé avec des tarifs de marché ?
Mais justement, c'est là la grande complexité, c'est-à-dire l'idée qu'il est très très difficile d'avoir à la fois un marché de l'électricité avec des tarifs de marché qui sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. On l'a dit, qui peut varier d'une heure à l'autre de 4-7 euros à 800 euros le mégawattheure. Et donc, de fait, avec des répercussions très fortes sur les marchés. Et puis ensuite, pour les particuliers, la possibilité d'avoir un tarif réglementé de vente. On a du mal à comprendre comment on peut faire coexister les deux. Alors, vous allez dire, mais pourquoi on ne supprime pas le tarif réglementé de vente ? C'est ce qui s'est passé pour les boulangers qui aujourd'hui n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité, pour l'université qui voit sa facture d'électricité exploser, ben on le voit la difficulté. C'est-à-dire qu'on est sur un bien essentiel à usage captif, c'est-à-dire qu'on peut difficilement se priver d'électricité pour s'éclairer, pour se chauffer quand on a un chauffage électrique chez soi. Et donc, quelque part, on voit bien que ces tarifs de marché mettent en vraie difficulté des professionnels qui voient leur facture d'électricité flamber et qui ne peuvent pas répercuter sur le prix de la baguette de pain la totalité, l'augmentation des coûts de l'électricité. Donc, on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui à avoir ces tarifs de marché.
Et ça pose la question centrale, finalement. Est-ce qu'un bien à usage captif, comme l'électricité, doit être mis sur un marché ?
Alors voilà, c'est une vraie question, puisqu'on en a parlé. Vous avez l'électricité qui est investie de fortes missions de service public. Alors, si je prends ce qu'on appelle la loi de Morand, il y a trois grandes missions de service public pour un service comme l'électricité. Vous avez d'abord la continuité du service. Continuité du service, ça signifie qu'il faut, en temps réel, être capable d'approvisionner les gens, de leur donner l'électricité. Et vous voyez, peut-être vous avez entendu dans les médias dire « Attention, le réseau de transport électrique nous alerte, on risque d'avoir des coupures et on risque d'avoir, suivant les heures de la journée, des quartiers qui seront éclairés ou qui ne le seront pas. » Donc c'est l'idée qu'à un moment donné, on ne respecte plus le service public, puisqu'il faut assurer, on va dire, la continuité de ce service
public. C'est incompatible, en fait.
Alors c'est incompatible. Ça veut dire qu'il faut planifier les investissements. Il faut qu'il y ait l'État qui soit capable, à un moment donné, de garantir que des investissements dans des capacités de production, dans des capacités de transport, soient suffisants pour permettre, effectivement, de répondre à la demande. Donc ça, c'est la première mission de service public qui nécessite un fort encadrement de l'État. Deuxième mission de service public, c'est le service universel, qui consiste à dire... Toute personne qui en fait la demande sur le territoire, et en particulier, c'est vrai pour les résidentiels, vous et moi, toute personne qui en fait la demande sur le territoire doit pouvoir être desservie. Ça, c'est un fondamental dans le service universel de l'électricité. Et surtout, il a été rajouté à ce service universel la notion, troisième point fort, d'égalité de traitement. C'est-à-dire les usagers identiques doivent être traités de manière identique. Et on a considéré, et là, c'est quelque part... un choix qui peut être mis en cause demain. Mais on a considéré qu'un particulier, qu'il habite à Paris ou qu'il habite en Lozère, je n'ai rien contre la Lozère, j'adore la Lozère, donc il n'y a pas de souci, bien l'idée, c'est de dire qu'il doit payer le même prix. On a mis en place on a mis en place ce qu'on appelle, en jargon un peu compliqué, la péréquation spatiale tarifaire, qui consiste à dire qu'on habite sur l'île d'Ouessant ou qu'on habite à Paris, on va payer le même prix du kilowattheure, qu'on soit un particulier habitant sur cette magnifique île d'Ouessant ou dans cette magnifique ville de Paris. Voilà. Et ça, c'est un principe très, très important. Et on voit du coup que l'ouverture à la concurrence, elle est très compliquée à organiser avec ces missions de service public et qu'elle nécessite vraiment une intervention très forte de l'État. Et c'est la raison pour laquelle on a gardé un tarif réglementé de vente pour les particuliers. C'est bien l'idée qu'il faut assurer une égalité de traitement et que tous les particuliers, quelle que soit leur localisation, vont payer le même prix. Donc on voit bien que le marché, lui, qu'est-ce qu'il va faire si, à un moment donné, on enlève les tarifs réglementés de vente ? Il ira desservir les zones qui sont rentables et il arrêtera de desservir les zones qui ne le sont pas. Donc vous voyez un peu la difficulté que ça représente et que derrière l'ouverture à la concurrence, il y a une nécessité, ce que j'appelle même une impérieuse nécessité, d'avoir une très forte intervention de l'État et un très fort encadrement de ces marchés.
Alors, en deux minutes, vraiment une dernière question, parce que le temps passe très vite. Quelle solution, vous semblerait techniquement viable, déjà pour réduire les prix de l'électricité, mais aussi pour les décorréler de ceux du gaz ?
Alors, c'est une très bonne question. Actuellement...
En deux minutes, c'est dur.
Voilà, c'est assez difficile, mais on va essayer de le faire. Il y a l'Union européenne qui est en train de réfléchir à une réforme des marchés de l'électricité en Europe. Je suis assez pessimiste, parce que pour l'instant, on a vu vraiment des petites réformettes, des rustines qui sont mises en place. On l'a vu avec les aides d'État, les plafonnements des prix. Donc je suis assez inquiet. Des auteurs en économie ont vraiment montré qu'il fallait peut-être s'orienter vers des signaux à long terme. Je l'ai dit tout à l'heure, les marchés fonctionnent à très court terme. On a un manque d'électricité, les prix flambent. On a peu de demandes et beaucoup d'offres, les prix chutent proche de zéro. On voit très bien que les investisseurs, ils ont besoin de signaux à long terme. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être avoir un acheteur unique. C'était à l'époque proposé par la France. Ça a été refusé par l'Union européenne. Il faudrait peut-être un acheteur unique qui passe des appels d'offres, qui lance des appels d'offres pour avoir les meilleures capacités de production en fonction de la planification des besoins et de l'anticipation des besoins à très long terme. Et que derrière, eh bien, ce soit lui qui, quelque part, donne, par le biais de contrats à très long terme, une rémunération lisible sur 30-35 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on dise à des producteurs, voilà, vous êtes prêts à vous engager sur 35 ans, Oui, bah, a priori, vous remportez l'appel d'offres et vous aurez une rémunération de 120 euros le mégawatt-heure pendant 35 ans. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si on veut à un moment donné inciter aux investissements, avoir un peu plus de visibilité, moins de flexibilité, de variabilité dans les prix. Parce que c'est impossible d'avoir sur un bien investi de mission de service public comme l'électricité, autant de variabilité, eh bien, je pense qu'il faut absolument qu'on redonne des signaux à long terme et que, quelque part, on ait peut-être une centralisation un peu plus forte des marchés. Alors, on ne pourra pas recréer des monopoles, ça c'est clair, puisqu'on voit bien que ça serait contraire aux règles de la concurrence européenne. Mais je pense qu'il y a moyen aussi, peut-être, de redonner de la visibilité à long terme à travers des contrats à plus long terme. Il y a aujourd'hui des propositions qui sont faites, j'espère qu'elles seront entendues par les politiques.
Un grand merci à vous, François Mirabel, pour toutes ces explications. On regardera plus notre facture de la même manière du tout.
J'espère.
Alors, si vous souhaitez lire cette interview et découvrir les 14 autres sujets de ce LUM spécial énergie, vous pouvez nous adresser un mail à communication@umontpellier.fr et nous vous l'enverrons. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Bonjour Liane Cove.
Bonjour.
Alors, je crois que vous êtes à l'aéroport, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, on ne va pas vous embêter longtemps. Donc, vous êtes responsable du programme à Agropolis, responsable de programme, pardon, à Agropolis Fondation. Et vous nous présentez aujourd'hui donc trois conférences sur le changement climatique en Afrique. Donc, ça se tiendra le 13 juin au Quorum de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le thème de ces conférences ?
Oui, alors, c'est une thématique qui est bien le changement climatique en Afrique. Donc on a invité trois auteurs du GIEC, de chaque groupe du GIEC. Donc il y a trois groupes, il y a le groupe scientifique, le groupe adaptation et le groupe mitigation du changement climatique. Donc on a invité ces personnes pour faire un témoignage sur leurs travaux et les publications qui ont été faites, les publications récentes sur l'état du changement climatique en Afrique. Donc c'est un événement qui est organisé en collaboration avec le CERAD et Agropolis Fondation, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le One Planet Fellowship Programme, qui est géré donc par la Fondation et financé par la Commission européenne.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces trois auteurs du GIEC ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Ils sont tous chercheurs en Afrique, c'est ça ? Ou ingénieurs ?
Oui, en fait, on a deux auteurs africains, qui sont Aïda Diong et Edmond Totin, et une autrice française qui est basée à Paris, qui est Nadia Maizi.
D'accord, très bien. Et donc, la Science Week, là, qu'est-ce que c'est exactement comme événement ?
Un événement qui regroupe tous les acteurs du One Planet Fellowship, c'est-à-dire les lauréats, qui sont des jeunes chercheurs africains de moins de 40 ans, qui travaillent sur la thématique du changement climatique et de l'agriculture en Afrique. Ils travaillent tous sur des thématiques très différentes, ça va de l'économie à la modélisation du climat, à la sélection variétale et certains aux sciences vétérinaires. On les regroupe pour ce séminaire qu'on appelle la Science Week avec les autres acteurs qui les ont encadrés, donc des scientifiques européens et des scientifiques africains qui les ont mentorés, supervisés, parce qu'on donne l'opportunité à ces chercheurs qui ont été sélectionnés de faire un séjour dans un laboratoire européen de pointe, où ils vont pouvoir partager leurs connaissances et acquérir de nouvelles compétences.
D'accord. Et donc, alors, à l'occasion donc, de ces trois conférences qui se tiendront le 13 juin, donc je répète, le 13 juin, de 9h à midi au Quorum de Montpellier, le public pourra poser ses questions, c'est ça ?
Tout à fait. Il y aura une table ronde, donc à la fin, avec les trois auteurs du GIEC, et Marie Rabronski du CERAD et Benjamin Sutan de l'IRD. Ce sont tous les deux des chercheurs qui sont très spécialisés sur le changement climatique. Et donc, il y aura cette table ronde où le public sera invité à poser des questions.
D'accord. On s'inscrit sur le site du CIRAD, c'est ça ? Je mettrai les liens pour les gens qui souhaitent s'inscrire.
Oui, il y a un flyer qui a été diffusé, qui est aussi sur le site d'Agropolis Fondation.
Très bien. Merci beaucoup, Liane Cove. On vous embête pas plus. Et merci beaucoup d'avoir bien voulu nous parler entre deux avions.
Merci beaucoup, merci à vous.
Au revoir, bon voyage.
Au revoir.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetan pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.